Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Moins de logements neufs, moins de prêts immobiliers. Il faut stopper l'hémorragie. Elisabeth Borne tente de venir au secours du secteur du logement. La Première ministre s'apprête à annoncer une série de mesures cet après-midi au sortir du Conseil national de la refondation sur le logement. Bonjour Margot Fodéré.
Bonjour.
Bon, il y a eu quelques fuites. On sait déjà une partie de ce que va annoncer la Première ministre.
Oui, d'abord, pour aider les Français à se financer, les prêts à taux zéro vont être prolongés jusqu'en 2027 et resserré sur certaines zones en France. La mensualisation du taux d'usure qui devait prendre fin le 1er juillet va elle aussi être prolongée jusqu'à la fin de l'année. Et puis pour soutenir l'offre de logements, le gouvernement prévoit notamment le rachat par la Caisse des dépôts et Action Logement de 47 000 logements qui n'ont pas été vendus par les promoteurs immobiliers.
Que pense, allez-y, je vous en prie.
Non, mais j'ai la même question que vous. Que pensent, Margot, les acteurs, les professionnels de l'immobilier, de cette première série de mesures ?
Eh bien, les professionnels sont très déçus. Tous espéraient des mesures fortes pour aider le secteur du logement, comme Pascal Boulanger, le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers.
Il faut prévoir des mesures pour ce malade chronique qui est le logement. Et puis il y a aussi aujourd'hui ce malade chronique qui est arrivé aux urgences. Et il faut des mesures électrochocs. Il y a une crise sur l'offre, il y a une crise sur la demande, il y a une crise sur les matières premières, il y a une crise sur les financements.
Pour vous donner une idée, en 13 ans, jamais aussi peu de logements neufs n'ont été mis en vente selon la FPI. C'est en partie lié à la chute du nombre de permis délivrés par les mairies, moins 30% en un an. Sur ce dernier point, la FPI réclamait des aides pour les mairies qui, elles, acceptent de construire. Mais à ce stade, aucune annonce n'est prévue à ce sujet.
Merci Margot Fodéré du service économie d'Europe 1.
Une semaine décisive également au chapitre des retraites. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, devrait balayer la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite. Le texte, vous le savez, sera débattu à l'Assemblée ce jeudi.
Ouais, pas de quoi décourager les syndicats. Hein. 14e journée de manifestation demain. 250 actions prévues, 400 000 à 600 000 personnes attendues, 11 000 policiers et gendarmes déployés. Journée de grève qui devrait avoir un impact sur l'aérien. Un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly.
Il est 8h03 sur Europe 1. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, reçoit aujourd'hui la famille de la jeune Lindsay, 13 ans, qui s'est suicidée dans le Pas-de-Calais après avoir été victime de harcèlement scolaire.
Et hasard de calendrier, c'est aussi aujourd'hui que la justice doit se prononcer sur la mort du jeune Lucas, 13 ans lui aussi. Il a mis fin à ses jours en janvier dernier chez lui à Golbey, dans les Vosges. Un drame qui a ému la France entière et notamment le ministre de l'Éducation nationale interrogé au Sénat.
Quand un enfant met fin à ses jours, il n'y a pas de mots pour dire l'émotion, le chagrin, la douleur. Il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
L'émotion de Pap Ndiaye, c'était devant le Sénat. La famille de Lucas est convaincue que c'est le harcèlement qu'il subissait à l'école qui l'a poussé à se suicider. 4 jeunes du même âge que lui sont jugés dans cette affaire. Bonjour Mélina Fachin.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, vous êtes en direct du tribunal d'Épinal, tribunal pour enfants, qui va dire dans une demi-heure si ces 4 jeunes sont, oui ou non, coupables d'avoir poussé Lucas au suicide.
Oui, et c'est plus compliqué à déterminer qu'on l'imagine. Lors du procès de ces 2 garçons et de ces 2 filles de 13 ans qui s'est tenu à huis clos en avril, le parquet a en effet estimé qu'il manquait d'éléments pour les incriminer. Il n'a pas pu formellement faire un lien de cause à effet entre le harcèlement dont Lucas faisait l'objet et son suicide. Le dernier harcèlement établi remonte en effet à novembre dernier, soit plus d'un mois avant le passage à l'acte de Lucas. Et puis même si le garçon a laissé un mot pour dire qu'il allait mettre fin à ses jours, il n'a pas donné davantage d'explications. Autre difficulté, certains des jeunes prévenus n'avaient encore que 12 ans au moment des premiers harcèlements. Or, la loi estime qu'en dessous de 13 ans, les enfants n'ont pas forcément le discernement nécessaire pour comprendre les conséquences de leurs actes. Alors, est-ce que le tribunal pour enfants va décider de relaxer les 4 jeunes prévenus, comme le demandent leurs avocats, ou est-ce qu'il va les juger coupables ? Dans ce cas-là, une autre audience sera fixée pour décider de leur peine. Pour les mineurs de moins de 16 ans, elle peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 7 500 euros d'amende.
Mélina Fachin en direct du tribunal pour enfants d'Épinal dans les Vosges. Notez par ailleurs que c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès du meurtrier présumé de la jeune Shaina, brûlée vive à 15 ans alors qu'elle était enceinte et après avoir été victime de viol.
Europe 1, il est 8h05. Emmanuel Macron enchantre de la France éternelle en Normandie, aujourd'hui et demain.
Oui, avant de célébrer le 79e anniversaire du débarquement dans le Calvados demain, le chef de l'État sera cet après-midi à l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui fête ses 1000 ans cette année. Site patrimonial et touristique exceptionnel dont la prouesse technique et architecturale ne cesse de nous émerveiller. Mais comment est né ce lieu symbolique ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, Wilfried de Villers.
Si la construction de l'abbaye est lancée en 1023, l'histoire du Mont-Saint-Michel telle qu'on le connaît aujourd'hui démarre véritablement en 966. Cette année-là, Richard Ier remplace les moines chanoines qui occupent les lieux par des bénédictins. Pour faire du Rocher un important lieu de pèlerinage, les ducs de Normandie veulent y dresser une abbaye et lancent de grands chantiers de construction. Au cours des siècles suivants, l'abbaye connaît de nombreuses mutations, transformée en forteresse. Pendant la guerre de Cent Ans, elle devient une prison à la fin du XVIIIe siècle. Lorsque cette dernière ferme ses portes, l'abbaye est dans un état déplorable. Classée monument historique en 1874, d'importants travaux de rénovation sont menés avant son ouverture au public. Le Mont-Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.
Wilfried de Villers.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, c'est la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Nous sommes le premier lundi du mois et c'est donc le moment de faire le point sur le panier de courses Europe 1.
Et toujours nos 12 produits d'alimentation et d'hygiène dont Europe 1 suit l'évolution pour vous avec notre partenaire, le panéliste Circana, un caddie qui nous permet de suivre l'évolution des prix. Et ce qu'on retient au mois de mai, Baptiste Morin, c'est que notre ticket de caisse est stable.
Oui, une stabilité qui se confirme mois après mois. Depuis mars, le prix du panier européen n'a presque pas bougé. À 57,49 € en mai, il est 9 centimes moins cher qu'en avril, 26 centimes plus cher seulement qu'au mois de mars. Alors ce plateau s'explique de plusieurs façons. D'abord, c'est le succès des mesures du trimestre anti-inflation. C'est incontestable, les prix des produits de marque distributeur sont stables. Notre partenaire Circana observe aussi une stratégie de baisse des prix chez certaines enseignes pour faire face à la chute des volumes de vente, ça joue donc. Et puis, dans la même logique, les distributeurs ont choisi de lisser la hausse des prix attendue après les négociations commerciales de cet hiver. Les prix n'ont pas grimpé de 10% d'un mois sur l'autre comme c'était redouté. Ceci étant dit, le panier européen se stabilise à un niveau haut, très haut. Sur un an, il a augmenté de 21,5%, soit un peu plus de 10 euros.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
Allez les sports, une fête gâchée ce week-end, c'est du football hein, et un championnat, celui de la Ligue 2, dans le flou complet, alors on n'en se parle.
Oui, à Bordeaux, on n'a pas encore digéré le match de vendredi soir. Dernière journée de Ligue 2, Bordeaux 3e reçoit Rodez 17e, jusqu'à l'agression d'un joueur sur la pelouse par un supporter bordelais. Écoutez le maire de Bordeaux, Pierre Urmic.
Vous aviez 42 000 spectateurs ce soir, des spectateurs enthousiastes qui encourageaient leur équipe. Et puis un individu, un sur 42 000, a suffi et a gâché la fête.
Et au-delà de la fête, l'enjeu de ce match était capital pour déterminer qui monte dans l'élite et surtout qui est relégué. Alors après 3 jours d'attente, la Ligue va enfin trancher. Aujourd'hui, on va donc connaître l'issue de ce match. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Alors quels sont les différents scénarios possibles,
Bien,
Dimitri ?
Écoutez, il y a 3 options sur la table. La victoire sur tapis vert de Rodez, tout d'abord. La deuxième, de reprendre le match là où il s'est arrêté, c'est-à-dire à la 20e minute avec un score de 1-0 pour les Aveyronnais. Ce qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas être le choix de la commission qui, historiquement, lors de ce genre d'incident, a plutôt choisi de faire rejouer l'intégralité des matchs. C'est le dernier scénario, c'est-à-dire que cette rencontre, elle repartirait de zéro et que tout serait à refaire. Bordeaux comme Rodez devraient l'emporter pour remplir leur objectif, puisque oui, il est important de rappeler qu'une victoire est obligatoire pour les deux clubs, pour les Aveyronnais s'ils souhaitent se maintenir en Ligue 2 et pour les Bordelais s'ils souhaitent monter dans l'élite. Tout reste ouvert, donc les deux clubs ont rendez-vous à 13h30 au siège de la Ligue de football professionnel pour connaître la décision de la commission qui aura une forte incidence sportive et économique sur l'avenir de plusieurs clubs.
Merci beaucoup Dimitri Vernet, le suspense est complet.
Mais quel week-end en football hein. On n'a pas parlé non plus de l'agression du petit Kenzo et de son père en
également.
Tribune à Ajaccio, décidément.
Et de la retraite d'Ibrahimovic.
Ouais, des adieux d'Ibrahimovic.
Des adieux
et le départ de Karim Benzema.
Mais voilà. C'était la folie, le foot ce week-end.
Il ne faut pas manquer le journal des sports de Dimitri Vernet pour les leftos, c'est aux alentours de 6h.
Exactement.